Radio Kapi.
Le journal Babel Mpongo Masimango.
À la une, cet appel à l'aide du ministre provincial de la Santé du Haut-Lomami au gouvernement central et aux partenaires. Une flambée de choléra touche plusieurs zones de santé. On compte déjà près de 200 cas et 6 décès cette année. Vous suivrez les SOS du docteur Adela Rumba. Nous parlerons aussi du délabrement avancé de la route nationale numéro 16 sur l'axe Kisantu-Kimvula dans le Congo central. Une délégation des notables de l'ex-district de la Lukaya est allée plaider pour sa réhabilitation urgente auprès du gouverneur de province. La problématique de l'exploitation artisanale de minerais en RDC a fait l'objet des échanges hier soir dans l'émission Dialogue entre Congolais. Vous suivez dans ce journal les avis des intervenants à ce sujet. Madame, Monsieur, bonjour. Nous parlons santé d'abord avec une flambée de cas de choléra signalés dans la province de Haut-Lomami. Plus de 6000 cas ont été enregistrés l'année passée avec plus de 200 morts. Pour cette année 2026, on compte déjà plus de 190 malades avec 6 décès. D'après le ministre provincial de la Santé, plusieurs zones de santé figurent parmi les plus touchées. C'est notamment Kabondo-Dianda, Malimpankolo, Kinkonja et Kitenge. Face à cette flambée, le gouvernement provincial appelle à un soutien urgent du pouvoir central et des partenaires. Il exhorte en même temps la population à consulter rapidement les structures sanitaires en cas de symptômes et d'observer les mesures d'hygiène. Docteur Adela Rumba, ministre provincial de la Santé du Haut-Lomami, explique la situation. Il est joint par Jean Gandou.
À ce jour, il faut dire que pour la semaine numéro 2 de 2026, 290 cas et 6 décès, soit 2% de létalité. Les zones de santé qui ont rapporté des cas, c'est notamment Boutumba avec 103 cas et 3 décès. La zone de santé de Kabondo-Dianda avec 56 cas. Et la zone de Kikonja et les autres. Cependant, il y a l'inquiétude par rapport à la zone de santé de Kitenge qui n'est pas dans l'axe fluvial, qui notifie aussi les cas et on y a déjà quelques décès. La situation de manière générale est très préoccupante. En 2025, le Haut-Lomami a eu à notifier 6300 cas, 200 quelques décès. Nous demandons à la population de respecter les mesures hygiéno-diététiques. Ça veut dire traiter l'eau de boisson. La bouillir et la refroidir avant de la boire.
Pendant ce temps, des corps se décomposent à la morgue de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, à la base d'une panne technique qui a provoqué un dysfonctionnement de ses services depuis quelques jours. Les habitants sont inquiètes. Certaines familles éprouvées ont du mal à organiser des obsèques dignes pour leurs proches qui décèdent, vu notamment l'état dans lequel les corps leur sont remis. D'où ce SOS du député provincial Jean-Fils Ngaïkomo, élu de la ville de Bandundu. Il craint des risques sanitaires pour la population. Il déplore aussi cet état de choses qui ne respecte pas la dignité humaine. Cet élu dit avoir saisi le gouverneur de province afin de trouver une solution urgente à la situation de la morgue de Bandundu. Suivez son SOS.
Nos deux morgues situées dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Bandundu-Ville ne fonctionnent plus. Elles sont donc en panne et nos parents qui sont là-bas se retrouvent en état de décomposition. Ce qui fait que la communauté ne sait plus respecter la programmation prévue pour l'organisation des obsèques de leurs proches qui traversent, qui nous quittent. Et ça, c'est très inquiétant. Donc, il y en a même qui n'ont plus utilisé les cercueils parce qu'il y a certaines parties du corps qui se sont détachées et donc ils se sont servis des sacs mortuaires. Et la situation devient inacceptable, c'est inadmissible. Non seulement qu'il se pose un réel problème de santé publique, mais aussi la population est exposée à une éventuelle épidémie, à la veille d'un grand événement qui est l'organisation de la conférence de gouverneurs qui pointe déjà à l'horizon et qui sera supervisée par lui-même les chefs de l'État. Quelle désolation! C'est ce qui nous a poussé à rencontrer les gouverneurs de province pour lui rappeler cette information-là qu'il est censé avoir.
En réaction, le gouverneur de Kwilu s'est personnellement rendu mardi sur le lieu pour s'enquérir de cette situation. Et pour lui, ce dysfonctionnement de la morgue de Bandundu n'est pas une situation nouvelle. Elle se répète régulièrement. Il promet des solutions, mais pour éviter pareille situation à l'avenir, il propose au maire d'inclure des gestionnaires de la morgue dans les réunions que la mairie tient régulièrement avec différents services de la ville. Le gouverneur Philippe Akamituna.
On a dit au maire de la ville aussi que la mort c'est un service. Alors quand il organise la réunion des services, qu'il invite aussi les responsables, j'ai entendu là les coordonnateurs de la mort, qu'ils soient là pour donner de temps en temps les rapports s'il y a un problème du courant, s'il y a un problème des pièces de rechange. Parce que gérer une morgue, c'est une chambre froide, il faut avoir en stock les pièces de rechange habituelles et les pièces qui ne sont pas habituelles, peut-être il faut faire la commande quand il en manque.
Un dossier signé Blaise Oshindani Kambala. Nous sommes au Congo central. La route nationale numéro 16 sur l'axe Kisantu-Kimvula est dans un état de dégradation avancée. Elle risque de disparaître si l'on y prend garde. C'est dans ce cadre qu'une délégation des notables de l'ex-district de la Lukaya, composée notamment des députés provinciaux Thomas Yobila, Jean Malongonzenza, Bilin Tunga et d'autres, ont rencontré le gouverneur du Congo central. Ils sont allés lui expliquer la nécessité de lancer urgemment des travaux de cantonnage manuel dans les parties les plus dégradées de ce tronçon d'intérêt national. Ils relient en effet, le Congo central à l'ex-province de Bandundu. Nana Plurich Mambo nous en dit plus.
Cette délégation a demandé au gouverneur de province de prioriser d'abord la réhabilitation de ses tronçons avant les routes de dessertes agricoles, conformément au programme provincial prévoyant la réhabilitation de 50 km de routes par territoire. L'impraticabilité de la route nationale numéro 16, longue de 200 km, qui part de Kisantu en territoire de Madimba jusqu'en territoire de Kimvula, demeure un véritable frein pour le développement du territoire de Kimvula. Pour se déplacer, la population vit un calvaire indescriptible en cette saison pluvieuse. Le moto font 2 à 3 jours sur cette route et les prix de la course coûtent plus de $100. Les véhicules, en revanche, prennent 4 à 5 jours de voyage. Cette situation entraîne la rareté des divers produits manufacturés à Kimvula. Signalons que Kimvula, où l'évacuation des produits agricoles pose un problème à cause de son enclavement, est un territoire à vocation agricole. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
L'aéroport de Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur, a tourné une page décisive de son histoire depuis mardi. Le gouverneur Bobo Boloko a en effet officiellement lancé les travaux d'installation d'un système de balisage nocturne souterrain, ce qui marque ainsi le début d'une modernisation tant attendue de cet aéroport. La fin des travaux est prévue dans 3 semaines, selon les ingénieurs de la RVA, la régie de voies aériennes à Mbandaka. Le balisage de cet aéroport est d'une importance capitale pour la ville de Mbandaka, nous dit Askenzi Batayoro, puisque jusque-là, les vols ne peuvent s'effectuer au-delà de 18 heures.
D'après les ingénieurs de la RVA qui effectuent les travaux, c'est depuis 2017, presque 8 ans, que l'aéroport de la ville de Mbandaka fonctionne sans balisage. Conséquence, tous les vols programmés sur Mbandaka ne peuvent pas y atterrir après 18 heures, ce qui rend difficile le trafic aérien sur la ville. Selon le témoignage, la RVA provinciale utilise de temps en temps le système de balisage solaire portatif pour faire atterrir rarement la nuit quelques avions sur demande de certaines compagnies d'aviation. Selon Alphonse Lyoko Wese, commandant de l'aéroport de Mbandaka, ce système de balisage portatif ne parvient pas à couvrir tous les besoins des services aéroportuaires et puis ne tarde pas à se décharger. Pour ce directeur de l'aéroport de Mbandaka, le travaux inclut l'installation d'un dispositif complet de balises lumineuses souterraines de nouvelle génération dont le coût est estimé à plus $1 million. L'autorité aéroportuaire affirme que ce projet de balisage est le fruit d'un long plaidoyer qui rentre dans le cadre de la modernisation des infrastructures aéroportuaires de la RDC. Car a-t-elle signifié jusqu'à présent, Mbandaka, l'absence de balisage nocturne limitait sévèrement les opérations aériennes, augmentant le risque.
Le comité d'organisation de la foire de l'industrie du textile FITEX annonce le lancement de la première édition de cet événement. Cela se fera en collaboration avec le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV. Au cœur de cette initiative, un programme de formation et de réinsertion socio-professionnelle destiné aux victimes des conflits armés. L'objectif est de leur donner des compétences dans le domaine du textile, de leur rendre leur dignité et de leur assurer une autonomie durable par le travail. L'annonce a eu lieu hier au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Été sur place, elle explique ce qu'il en est.
Cette conférence marque le début d'un engagement collectif pour la guérison, la reconstruction et la résilience. Les organisateurs ont présenté la vision et les objectifs de la FITEX ainsi que ses différents volets, formation, foire, compétition et gala. Ils ont aussi souligné l'importance de la collaboration avec le FONAREV pour soutenir les victimes.
L'objectif était tout simplement de donner le coup d'envoi et de dire par le canal de la presse que nous sommes là. La collaboration avec le Fonarev est très importante parce que elle détient la base de données des personnes compétentes en termes de victimes de guerre.
De leur côté, plusieurs victimes ont exprimé leur satisfaction face à la formation reçue qu'elles considèrent comme une véritable opportunité de construction personnelle et professionnelle.
Le programme FITEX, je suis très contente pour nous avoir appuyés parce qu'on était négligés dans notre domaine.
Et je suis vraiment heureuse de cette formation, de renforcer mes connaissances.
À travers cette initiative, la FITEX se veut plus qu'un événement économique. Elle devient un symbole de guérison, de reconstruction et de résilience pour les victimes de conflits armés.
Résister, se reconstruire, avancer, voilà le quotidien de Desange Massika Isingé, mère de 4 enfants. Cette femme déplacée a fui en 2022 les attaques des ADF à Mambelinga, à une localité du territoire d'Irumu en Ituri. Aujourd'hui à Beni, dans le Nord Kivu, elle enseigne et gère un petit commerce pour subvenir aux besoins de sa famille, transformant l'adversité en force. Martial Papimoukeba l'a rencontrée et nous raconte son quotidien, un exemple vivant de résilience pour toutes les femmes déplacées.
Installé dans un site pour déplacer au quartier Bakongo dans la commune de Mulekera, Desange Massika ne baisse jamais les bras.
D'abord, j'avais terminé mes études en 2020. Alors, quand j'avais fui les attaques des ADF, je me suis retrouvé que je peux envoyer les demandes pour chercher un emploi d'enseignement.
Chaque journée est un défi et une victoire. Elle enseigne au complexe scolaire des Mérites et vend de la chikwang ou pâte de manioc pour nourrir sa famille.
Le matin, je pars à l'école et à 12h50, l'école est finie. Je commence la préparation là-bas à l'école. Quand je termine à 14h, je me dirige à la maison pour vendre les chikwang, chercher la nourriture aux enfants et les habits, les médicaments aussi si la femme est malade.
Elle encourage d'autres femmes déplacées.
Il faut que les femmes essayent aussi de fabriquer les chikwang comme moi. Il ne faut pas avoir honte.
À travers son courage et sa détermination, Desange Massika incarne la résilience et l'espoir pour toutes les familles déplacées. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et ce vendredi 16 janvier 2026, 25 ans sont passés depuis que Laurent Désiré Kabila, alors président de la République démocratique du Congo, a été assassiné dans son bureau à Kinshasa par un de ses gardes du corps, Rachidim Sele Kasereka. Nous vous proposons un extrait du témoignage de Léonard Machakomamba, ministre de la Santé au moment de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ce professeur de médecine, en proche du président, actuellement décédé lui aussi, se trouvait au palais présidentiel, mais pas dans le même bureau. Lorsque Kabila est abattu, c'est lui qui a tenté de lui sauver la vie, selon ce qu'il avait raconté à Radio Capi dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Le chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila, en plein travail dans son bureau, au moment où il s'apprêtait encore à aller défendre notre pays au sein de la conférence France-Afrique, a été approché par quelqu'un de la garde et qui a tiré. A abattu le chef de l'État en plein exercice, en plein combat pour le peuple congolais. J'avais eu une séance de travail à laquelle il m'avait associé cette matinée-là. Et au moment où terminions cette séance, il m'avait demandé d'attendre un peu. Et c'est pendant qu'on attendait que nous avons entendu 3 coups de feu. Et une des personnalités qui était dans le bureau, en sortant, en criant, on vient de tirer sur Musée. Nous sommes précipités pour porter secours. L'histoire permettra de un jour de dire la vérité, parce que entre les faits immédiats et tout n'est pas encore dit.
Témoignage de Léonard Machakomamba. Le comité de pilotage pour la représentation des jeunes dans toutes les assises nationales salue la dynamique de décrispation politique engagée par le chef de l'État en vue de la tenue d'un dialogue intercongolais inclusif à travers les consultations initiées sous la facilitation de la République d'Angola. Dans une déclaration à la presse jeudi à Kinshasa, le coordonnateur et porte-parole de ce comité de pilotage rappelle un constat déplorable qui persiste encore, c'est l'exclusion systématique de la nouvelle génération congolaise, une plateforme regroupant plusieurs organisations des jeunes. Mukenge Totoro rappelle que l'inclusivité dans le dialogue national ne relève pas uniquement d'un choix politique, mais elle doit reposer sur des fondements constitutionnels et sociaux clairs. Ces propos sont recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
La Constitution de la République démocratique du Congo dispose notamment, à son article 5, que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Et donc la jeunesse, composante majoritaire du peuple congolais, est donc juridiquement fondée à participer à tout processus où s'exerce la souveraineté nationale. À son article 12, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et donc il n'y a pas lieu d'exclure la jeunesse car elle représente la majorité de la population congolaise. À son article 13, aucun Congolais ne peut faire l'objet de discrimination. Et donc l'exclusion de la jeunesse d'un dialogue national et qui se veut inclusive constituerait une rupture du principe d'égalité et de non-discrimination entre les forces sociales de la nation. Le dialogue intercongolais est, par essence, un cadre d'expression politique collective auquel la jeunesse ne peut être légalement soustraite.
Actualité internationale.
En Ouganda, les bureaux de vote ont fermé leurs portes jeudi soir après une journée marquée par des dysfonctionnements techniques et un Internet coupé dans tout le pays, compliquant la tenue d'un scrutin déjà controversé. Le président Yoweri Museveni, 81 ans, qui dirige l'Ouganda depuis plus de 40 ans, est donné largement vainqueur pour un 7e mandat, bénéficiant d'un contrôle quasi total de l'État et des forces de sécurité. Pourtant, dans certains bureaux de vote, la frustration a été palpable, rapporte africanews.net.
L'invité.
L'Assemblée nationale souhaite faire toute la lumière sur les récents événements survenus dans la province du Lualaba en lien avec l'exploitation artisanale des minerais. Elle a dépêché sur place une commission chargée de mener des enquêtes sur les incidents qui ont endeuillé de nombreuses familles. Cette problématique de l'exploitation artisanale des minerais en RDC a fait l'objet des échanges ce jeudi soir dans l'émission Dialogue entre Congolais. Les intervenants ont émis leurs opinions sur cette question. On les écoute au micro de Jean Gandou.
Franck Fouamba, qu'est-ce qui a motivé la décision prise par le ministre de Mines, Louis Watoum, de suspendre les activités minières de traitement et de commercialisation liées aux minerais issus de l'exploitation artisanale de cuivre et cobalt?
La décision prise par son excellence, monsieur le ministre de Mines, Louis Watoum, s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale telle qu'insufflée par son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Il est de notoriété dans le secteur artisanal, précisément auprès des entités de traitement, qu'en février 2025 et en avril 2025, il y avait déjà deux lettres du ministre prédécesseur, monsieur Kizito Pakabomba, qui avait donné un moratoire aux entités de traitement pour se mettre en règle avec les lois du pays sur l'actionnariat et sur le processus d'achat de minerais, les transactions. Et il y avait aussi une lettre qui avait mis en demeure les entités de traitement et les coopératives pour se conformer à la diligence responsable dans la chaîne d'approvisionnement et l'assainir, sous peine de quoi il y aurait des mesures dont le retrait des agréments et des sanctions graves. Aucune entité de traitement n'a mis en exécution des mesures qui avaient été conseillées par le gouvernement de la République. Au mois de juin, il y a eu un conseil de ministres à Kolwezi, au cours duquel des instructions ont été données à son excellence monsieur le ministre de Mines, à l'époque Kizito Pakabomba, à la gouverneure du Lualaba et à d'autres membres du gouvernement afin de mettre de l'ordre dans le secteur minier.
Banzala Mine, vous êtes le directeur général de la coopérative minière pour le développement et le social. Comment avez-vous accueilli la décision du ministre des Mines?
Nous l'avons accueilli d'une manière négative à 70%. Et après analyse, à 30%, on a vu que c'était une décision qui était en notre faveur.
Et qu'est-ce qui a fait qu'a priori vous ayez beaucoup plus de doutes au point de la qualifier de mauvaise?
Comme venait de le dire M. Franck, ça n'a pas commencé avec le ministre Watoum. Lorsqu'il avait annoncé cet arrêté, on avait écrit à la présidence, on avait mis en copie l'Assemblée nationale, madame la première ministre, ainsi que même le ministre lui-même Rémi, pour dire qu'on puisse nous donner un moratoire. Et heureusement que vous avez compris, et nous sommes retournés dans la province pour chercher à nous conformer à la loi. Nous, les coopératives, en soi, nous n'avons pas de problème.
Et les problèmes se situent à quel niveau?
Les entités de traitement. Nous, les coopératives, nous avons des personnalités juridiques, nous avons tout ce qu'il faut pour exercer normalement. Alors, c'est nous qui devons ravitailler quoi, les entités de traitement. Mais la loi exige à ce c'est que nous soyons dans des zones d'exploitation artisanale.
Et pourtant, on vous retrouve un peu plus partout et au point d'envahir même certaines concessions des privés.
C'est ça le grand souci qui cause l'handicap. Lors de la réunion de prise de contact avec la commission qui était venue de Kinshasa, personnellement, j'avais dit ceci. Vous avez hérité le mal de vos prédécesseurs. Avant qu'on octroie un arrêté à une entité de traitement, il y a des préalables, des études sur les impacts environnementaux, définir sa source d'approvisionnement et consorts. Donc, vous ne pouvez pas donner un agrément à une entité de traitement sans savoir comment elle va s'approvisionner. Alors, moi, je leur ai demandé que soyez conséquents, arrangez tout ce qui n'a pas été fait pour que vous nous remettez dans nos droits.
Eric Adjemba, vous avez suivi Franck Fouamba, vous avez également suivi M. Banza. Oui. Et à votre niveau, comment avez-vous apprécié la décision du ministre?
Ce que tout le monde dit ici, c'est que quand on voit ce qui se passe dans la réalité maintenant, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'au niveau des coopératives, déjà, il y a cette lacune, il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale. C'est de là où part tout le problème. Le fait qu'il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale, c'est que tout le monde est chez autrui. De l'autre côté, vous avez ces artisanaux, je ne sais pas sinon combien, mais en tout cas, selon la Banque mondiale, on a 2,5 millions au Congo. Donc, ces gens-là ont fait quoi d'eux? C'est aussi un autre problème. Donc, nous avons d'un côté cette réalité, il n'y a pas de zone d'exploitation artisanale. De l'autre côté, on a des gens qui veulent vivre. Alors, comment maintenant on doit faire? Et je pense que ce qui a manqué, c'est d'être pragmatique et de comprendre que cette réalité, on a promis des zones, elles ne sont pas là. Il y a l'industrie qui est là, c'est vrai, et elle est envahie, ce qui est aussi vrai. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des arrangements? Parce que, en tout cas, c'est la seule chose qui peut rester. Moi, je ne vois pas comment on va faire parce que les zones ne sont pas là. Et donc, ça pose un problème de durabilité. Oui.
Est-ce qu'il y avait mieux à faire que ça?
Imaginez que, bon, moi, je suis dans une entité, je suis dans un espace où je travaille. Mais je ne sais pas si demain, je serai encore là. Et donc, il y a ce problème qui est un problème sérieux. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, moi, à mon avis, c'est de dire, on trouve des arrangements industrie, artisans ou encore exploitants miniers artisanaux. Vous trouvez des arrangements, vous faites des MOU et vous travaillez ensemble et vous avancez.
Voilà, c'est ici que se termine aussi ce journal préparé par Richard Junior Kamunga, mis en onde par Dudu Nyangasa. Merci de votre attention. Très bonne journée.